Alors, on va d'abord remettre les choses dans leur contexte. Hein. On avait une enquête qui avait été diffusée au JT de 20h le 15 mars dernier, des journalistes de France 2 qui dévoilent des images tournées discrètement dans le COP, des DVE, le COP Lillois. Sur ces images, voire même selon les dires des journalistes, c'est pas forcément toujours très clair, on peut entendre ou lire des propos ouvertement racistes. Le reportage qui reviendra même un peu plus tard dans les images sur la très violente agression d'un supporter lillois par d'autres Lillois, c'était sur le stade, sur le parvis du stade Pierre-Mauroy en septembre 2021. Patrice, forcément, je me tourne vers toi. Tu as vu ce reportage. Qu'est-ce
Oui.
que tu en as pensé?
Alors moi, j'ai reçu un message en me disant il y a un reportage sur le LOSC qu'il faut absolument que tu regardes. je l'ai regardé. J'ai dit c'est quoi? Vraiment, ça faisait très chaud, plein de choses. Il y avait plein de choses qui se passaient. Puis avec le recul, je l'ai regardé une deuxième fois. Mais j'ai dit mais ça, c'est n'importe quoi. C'est à charge. C'est en caméra discrète. Alors oui, effectivement, on va se dire le journaliste, il peut pas venir avec sa caméra dans la tribune. Et quand on regarde bien, il y a plein de choses qui montrent le LOSC, ce qui se passe dans une tribune. Alors au départ, rien qu'une chose, les sous-titrages, ils sont en bas. Il y a deux phrases.
Alors, on va pas revenir.
Qui sont
dit,
je vais faire juste le détail,
ouais.
Juste sur là-dessus. Il y a deux phrases. Et à un moment, il y a une phrase qui arrive. On voit le capot en flou. Et on voit une phrase en hauteur comme si elle avait été donnée par le capot, ce qui est complètement faux.
C'est la mise en image.
La mise en image n'est pas bonne. Pourquoi, à ce moment-là, alors qu'il n'y a pas d'incident dans les stades, il ne se passe rien, pourquoi ce reportage-là? Et comme par hasard, derrière, il y a un clip qui sort le week-end suivant de la LFP sur justement la discrimination, l'homophobie dans les stades. Il y a l'histoire des chasubes que les joueurs ont mis, notamment, c'était sur le match de Toulouse.
Alors on va pas non plus.
Il y a plein de choses. Non, mais il y a plein de choses qui font que.
Mais d'abord, le reportage pour toi, est-ce que la situation, elle est fidèle à ce qui se passe dans les tribunes de Pierre-Mauroy ou d'ailleurs en France?
Alors moi, je fais le stade Pierre-Mauroy tous les week-ends. J'ai fait énormément de déplacements avec le LOSC. J'ai jamais entendu, d'accord, de chants. Quel qu'il soit, j'ai jamais vu un drapeau.
Là, c'est même pas des chants, des drapeaux, c'est des gens qui parlent en tribune.
Voilà, mais il y a plein de choses, quoi. Mais moi, j'ai jamais. Là-dessus, je suis complètement à côté. Ça n'a rien à voir avec l'image qu'on peut avoir des supporters aujourd'hui et des gens qui sont à Pierre-Mauroy, quoi. Ça n'a rien à voir.
Denis Quentin, vous en avez pensé quoi Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui existe, le racisme, dans les tribunes? Est-ce que ça a été mal dévoilé par ce reportage?
Sur le fond, je pense qu'on a tous assisté à des comportements isolés, mais de là à les généraliser ou de là à stigmatiser, c'est... Et sur la forme, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est pas du journaliste qu'on a envie de voir.
Bah disons que la mise en scène, effectivement, elle est un peu grosse, même si on peut pas nier qu'il y a une certaine frange qui est particulièrement marquée au niveau de l'ultra-droite. Effectivement, de le monter comme ça et de tout arquer sur la même chose, même si durant le reportage, d'ailleurs, il précise bien que c'est une portion limitée des supporters. Mmh. Mais malgré tout, la mise en scène, elle est un petit peu dérangeante, quoi.
Sensationnel.
Alors, il y a eu la réponse du LOSC qui, évidemment, vient communiquer, qui dénonce un discours à l'opposé des valeurs du club. Et tu l'as dit, donc, Patrice, hein, il y a eu plusieurs campagnes dans la foulée, même à la fin de la semaine. Le LOSC qui avait répondu sur Twitter avec cette vidéo de la LICRA où des victimes d'insultes racistes témoignent. De son côté, toujours avec le hashtag Jouons la collectif, Lens avait mélangé les noms de ses joueurs sur les maillots pour dire non aux discriminations.
Samba,
Jonathan Openda,
Kevin Abdul Samet,
Brice Labolascari,
Shemeswar Fofana,
Teko Leka,
Jean-Louis Onana.
Nos noms disent non.
Ensemble, déjouons les préjugés.
Ce genre d'opération qui était là portée par les joueurs du Racing Club de Lens, est-ce que pour vous ça peut faire avancer la cause?
Non. Pour moi, oui. D'accord. S'il y a déjà une cause à défendre. Mais alors, on revient sur ce fameux reportage. Dans ces cas-là, il y a ça qui sort. On fait un reportage. Moi, je suis pas journaliste. C'est pas mon job. Mais on fait un reportage sur voilà ce qui est mis en place. Voilà ce qu'on fait. Et pas d'aller faire cette image, de donner l'image. En plus que d'un seul club. Mais tout est à charge.
On évoque vite fait Strasbourg, mais.
Alors, très vite fait. Hein. Et puis après, on finit à Rouen, qui doit être en N3 de mémoire, ou N2 ou N3. Mais pourquoi pas avoir fait un reportage en disant ben voilà, ce que nous, on met en place, il va y avoir cette histoire, effectivement, de maillots qui sont changés. Je crois que le PSG a fait la même chose sur son match ce jour-là. Mais c'est incompréhensible ce qui s'est passé et pourquoi le club est visé là. Et en plus, avec des images, même à un moment, qui datent de 2021, quoi. Mais complètement hallucinant.
Toi, ce qui te gêne le plus, c'est le fait que le LOSC soit, comme ça, mis en porte-à-faux avec, avec ce reportage qui reste à charge.
Oui, parce que quelqu'un qui n'est pas lillois, voilà, qui est, parce qu'en plus, c'est donc sur France 2, qui n'est pas lillois, dit à Lille, c'est l'image, voilà. Carrément, c'est tout lillois et comme ça.
C'est le problème effectivement d'avoir un seul son de cloche et de ne pas pouvoir contrebalancer derrière avec justement les initiatives que le club aurait pu prendre. Là, dans le coup, pour le coup, il parle justement de la déclaration du club, mais toutes les initiatives qui peuvent être faites à côté doivent aussi être mises en avant, et c'est ça qui est un peu problématique, je trouve.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors les clubs dans ces cas-là, Quentin ?
Ce qu'ils peuvent faire, c'est de toute façon, il y a une responsabilité qui est très claire pour les clubs, que ce soit au niveau des règlements de la Fédération Française de Football, ici au cas particulier la Ligue de Football Professionnelle, qui très rapidement ont mis à la charge des clubs une obligation de résultats en matière de police des terrains ou de police des tribunes.
Mais le plus dur, c'est pas déjà de prouver, d'avoir des images, des vidéos de ces faits ?
Il y a bien évidemment des caméras, et puis les clubs participent toujours, collaborent toujours aux enquêtes judiciaires derrière. Mais aujourd'hui, les clubs, ils ont quand même une responsabilité qui est très lourde, qui est très importante. C'est-à-dire qu'ils sont, ce que je disais, sur une responsabilité objective, c'est-à-dire une responsabilité sans faute, une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un moindre débordement, une moindre insulte raciste, un propos xénophobe, un jet de projectile, d'engin pyrotechnique, ils sont de fait responsables, disciplinairement vis-à-vis de la Ligue de football professionnelle.
Et donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre ces supporters ?
Ils ont tout intérêt justement à mettre tous les moyens pour éviter ça, mais encore une fois, ils ont beau mettre tous les moyens, si le résultat n'est pas atteint, ils seront responsables. Donc après, bien évidemment, c'est de la police que je veux qualifier de préventive, mais aussi de la police répressive derrière, avec des interdictions de stade, et puis au niveau des fédérations et au niveau, bien évidemment, de la justice, c'est des interdictions administratives et judiciaires de stade.
Et ça marche, les interdictions de stade, on a des résultats sur cette méthode
On connaît tous l'exemple de l'Angleterre, où à un moment donné, ils ont pris les choses en main, avec des sanctions très très lourdes. Aujourd'hui, alors, il y a une résurgence au niveau des stades anglais de ce type de fait, mais pendant très longtemps, ça a été écarté. Donc, est-ce qu'il ne faut pas avoir un volet répressif encore plus musclé ?
Pour toi, pour vous, en France, il faudrait être plus dur sur ce genre de questions. On est un peu trop laxiste, pour reprendre les mots de Quentin.
Alors moi, ça me fait rire. C'est la LFP, je vais revenir sur elle, qui est schizophrénique, mais vraiment. Interdiction de fumée. Donc on est sur les engins pyrotechniques, c'est 7 mois d'interdiction de stade minimum, parce que je sais que quelqu'un l'a pris, d'accord ? Faut pas oublier qu'il y a un an, ils faisaient une pub sortie de Covid, la Ligue, pour attirer les gens à revenir dans les stades avec des supporters, avec des fumis, en disant « l'ambiance est fabuleuse ». C'est quand même schizophrénique de dire « mettez des fumis, c'est une super ambiance, par contre si t'en allumes un, tu prends 7 mois ». J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment on gère les supporters.
Mais là, sur la question du racisme, ça, c'est donc les fumigènes. Effectivement, on a tous vu les spots de pub où ils se vendent de ça et derrière sanctionnent très durement. Mais est-ce que pour toi, il y a assez de choses qui sont faites pour lutter contre ce phénomène en tribune ?
Mais aujourd'hui, alors, moi, je vais pas jouer à l'ancien, mais les phénomènes en tribune, il y a quelques années, dans certains clubs, c'était bien pire que ce qu'il y a aujourd'hui, sans qu'en France, on soit de manière très, très répressive. On parlait d'IDS, la seule chose qui s'est passée sur les IDS, c'est sortie de Covid, où il y a eu plein d'incidents dans les stades, parce qu'il y avait plein d'IDS qui avaient sauté, entre guillemets, parce que c'est 12 ou 24 mois, et comme il n'y avait eu que des huis clos, les matchs en huis clos ont compté dans les périodes d'IDS. Donc les IDS sont sortis, c'est pour ça qu'il y a eu les incidents à Nice, il y a eu plein de choses comme ça. Mais c'est pas, je pense qu'il ne faut pas s'appuyer sur ce que fait pas bien le supporter, il faut aller sur justement ce que fait bien le supporter. Quand l'ambiance est dans le stade, etc., etc., il y a plein de gens qui disent, moi je l'ai lu énormément et ça m'a agacé, je finirai là-dessus, c'est les sections nettoyées. Faites le ménage dans vos sections, d'accord ? Non ?
Dans les tribunes.
Voilà, faites le ménage dans vos sections. Non, non, ceux qui écrivent ça, venez dans les stades, venez avec nous, venez animer, venez chanter. Imaginez que quand on fait un déplacement, parce que moi j'en organise pour les DDH, quand on fait des déplacements, on a des heures carrées, c'est pas juste on prend 60 mecs et on met dans un bus.
Mais ça se passe comment alors pour toi, quand tu organises par exemple un déplacement ? Imaginons, dans ta section, tu as un des membres du bus qui, pour faire des insultes, ou est violent, fait un pumi, bref. bref, ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est quoi le rôle, ton rôle à toi dans, en tant que membre organisateur?
Alors aujourd'hui, ça s'est jamais passé, d'accord? Donc, clairement,
il y a un protocole, est-ce que vous avez
clairement,
quelque chose en cours?
Clairement, nous, demain, il se passe quelque chose dans un de nos bus, on s'en arrangera entre nous, d'accord? Et la personne, on la blacklist directement, elle ne fait pas les déplacements avec nous.
Mais du coup, c'est d'abord un supporter, alors, à ce moment-là?
Non, les cas sont hyper, comment dire, c'est infime, d'accord? Moi, je suis vraiment basé de se dire, arrêtons de montrer le mauvais côté du supporterisme, et allons chercher justement ce bon côté, ce côté festif, ce côté, je mets des pyros, je fais des tifos. Quelqu'un qui fait un tifo, il y passe des week-ends entiers dans des parkings, etc., pour sortir des tifos qui sont des fois, mais assez régulièrement, hyper magnifiques. Mmh. Investissez-vous dans ce qui se passe, et on verra bien que là, obligatoirement, c'est, il y a une vague qui sera d'ambiance, qui fera qu'elle sera bien meilleure.
T'as une question, Quentin ?
Oui, non, mais pourquoi stigmatiser les stades, les terrains, les supporters ?
Parce qu'il y a quand même une réalité.
Ouais, mais est-ce qu'il y en a plus que dans la société dans laquelle nous vivons ? Je pense pas.
C'est une loupe de la société.
C'est un reflet de la société, c'est évident. Mais est-ce qu'il y en a plus que dans la société ? Je suis pas sûr. Pour évoluer dans les deux, dans la société comme vous tous et dans les stades comme vous tous, j'ai pas l'impression de voir plus de racisme. Au contraire, j'ai l'impression que le sport est plutôt générateur de bonnes valeurs, mais il y aura toujours des cas isolés, plus ou moins en fonction de clubs, etc., ou de pays. Mais objectivement, il n'y a pas plus à dire dans le foot que dans les sociétés.
Moi, je pense qu'effectivement, c'est le reflet de la société. Maintenant, il ne faut pas mettre l'accent que sur ça. Il faut avoir effectivement mettre en avant toutes les initiatives positives. Notamment, moi, je trouve que l'idée des inversions de noms sur les maillots à Lens, moi, en tant que supporter, j'étais très interloqué. Je me suis demandé quel était le sens. Et puis finalement, derrière, il y a quand même quelque chose. Donc, je pense que les supporters, c'est une chose, ont une manière aussi à eux de pouvoir mettre en valeur ce qu'ils sont capables de faire comme démarche positive. Mais en même temps, je pense que les clubs, les joueurs, ils peuvent aussi avoir leur importance dans ce genre d'action, quoi, parce que même si c'est le reflet de la société, c'est aussi quelque part aux acteurs du jeu de pouvoir créer quelque chose d'assez unitaire finalement et de rassembleur, quoi.
Un mot d'espoir donc pour terminer cette première partie et ce premier débat. Évidemment, on va parler sport et dans Cop Nord, ce sera après une très courte page de pub. On va parler équipe de France, on va parler fin de saison de Lens, on va parler fin de saison de Lille. Donc évidemment, restez avec nous, à tout de suite. On est de retour dans Cop Nord, si vous voulez revoir un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure sur les supporters et les stades. Ça se passe évidemment tout à l'heure sur le site internet BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, et on n'oublie pas non plus Spotify tout au long de la semaine. On parle Ligue 1 dans quelques instants, mais d'abord l'actu foot du moment, le match de l'équipe de France ce soir en Irlande, l'acte 2 de nouvelle ère des Bleus, nouvelle ère qui a débuté par une bonne première pour Mike Maignan, hein, Patrice.
Ouais, moi je l'avais dit juste avant, qu'effectivement il arrivait numéro 1. Il a attendu, il arrive au bon moment, parce qu'il remplace Loris. Et il fait une Maignan en plus, puisqu'il arrête le pénalty qui était sa spécialité.
T'as le sourire quand tu le vois.
Oui, parce que je crois qu'il est à 30% d'arrêt de mémoire sur pénalty depuis le début de sa carrière, quasiment à 30%. Et c'est sa spéciale, quoi. Et sur ce match-là, première sélection. Bon, c'est pas son première sélection, mais au Stade de France, il y a 4-0. Il l'arrête. Et en plus, il y a une réaction globale de l'équipe qui fait que le clean sheet était hyper important, et le fait en plus qu'il l'arrête, je pense que ça passe la vague d'autre chose, quoi.
Et toujours dans les buts, donc Didier Deschamps qui l'a annoncé, ce serait Alphonse Areola en 2 et Brice Samba en 3, alors que cette saison, Alphonse Areola en Angleterre, c'est 18 matchs, toutes compétitions confondues. Est-ce que Didier Deschamps a plutôt raison de privilégier l'ancienneté d'Areola par rapport aux performances de Brice Samba ?
C'est une transition en douceur, à mon avis. Je ne suis pas sûr qu'il reste très longtemps dans les 3, parce que outre Brice Samba, il y en a 2-3 derrière, avec Lafont, Meslier et puis aussi Lucas Chevalier qui me paraissent plus légitimes, mais bon, on verra sur les prochaines
saisons. Moi, je pense que c'est vraiment, comme tu le dis, pour cette sorte de continuité, puisque lui, justement, il a l'habitude de ses rôles de troisième et deuxième gardien. Brice Samba aura peut-être sa chance plus tard. Là, de toute façon, Areola aussi est tributaire du retour de Fabianski. Quand Fabianski reviendra, est-ce qu'il sera encore dans les cages? Et auquel cas, ça débloquera peut-être la place de deuxième et du coup de troisième. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être espérer avoir Samba deuxième et Chevalier troisième. Ça serait quand même chouette pour les clubs de la région, quoi.
Tu veux un mot d'un retour? Il y en a un qui t'a fait plaisir, Denis. Il y a un ancien international, tout jeune retraité, c'est l'actualité du moment. Finir à Manchester ou à Lens pour Raphaël Varane, si le Racing Club de Lens arrive en Ligue des Champions, tu vois, tu penses que Raphaël Varane pourrait revenir à Bollard?
Alors moi, je signerai tout de suite après. Le truc, c'est que là, son contrat court jusque 2025. Donc comment, dans quel quel contexte et dans quel, sous quelles conditions le faire venir, ça c'était un autre débat. Maintenant, peut-être que Manchester serait peut-être intéressé par un autre défenseur, pourquoi pas, ça apporterait l'expérience. Et puis, nous, on l'a vu partir.
T'échanges très jeune. Danso, par exemple, contre Varane.
Bah, ça ferait mal au cœur, parce que Danso, c'est quand même, il est quand même très jeune, finalement, il n'a que 24 ans, si je ne m'abuse. Et puis, bon, il est quand même solide. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, il aurait besoin de boucler la boucle et terminer son histoire à Lens. Il est parti quand même très jeune au Real. Alors que bon, il a explosé là-bas et je pense que, enfin, ça fait pas vraiment déclaration pour faire plaisir. Je pense qu'effectivement, dans sa tête, c'est cohérent. Ça serait pas le premier un joueur qui terminerait dans son club de formateur, donc pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Je pense que nous, à Lens, on serait quand même content de le voir traîner le maillot.
Allez, coup d'œil au classement. Lens qui est troisième avant d'attaquer ce sprint final. 2 points derrière Marseille, 9 derrière Paris. Lille qui est sixième avec 49 unités, 1 point de la 5e place qui est synonyme de qualification pour l'Europe. À noter qu'ils ont 5 points de plus que Nice et Lorient, 7e et 8e, donc il y a un petit qui s'est creusé. On regarde d'abord le programme pour Lens. Ça commence avec le déplacement à Rennes samedi. Ensuite, Lens affronte Strasbourg, Paris, Monaco, Toulouse, Marseille, Reims, Lorient, avant de recevoir Ajaccio et terminer à Auxerre à l'extérieur. Ça fait donc 6 équipes du top 10 actuel. Denis, bah, du coup, je reste un peu avec toi. Sur ces 10 matchs, objectif, combien de points ?
Alors, le nombre de points, je ne pourrais pas te dire précisément, mais ce que je pense que c'est. Ce qui est assez rigolo, c'est que les calendriers se juxtaposent un peu. C'est-à-dire que nous, on joue Rennes, qui, quelque part, on aura intérêt à battre pour Lille.
Oui, il reste des gros matchs des deux côtés.
Voilà, que Lille bah, aussi a son incidence par rapport au match contre Marseille et Monaco. Moi, je pense qu'on peut quand même toujours décemment viser la troisième place. Hein. Après, on est tributaire de nos performances, de celles des autres équipes. Effectivement, c'est un calendrier assez costaud, mais on a montré qu'on était. On a réussi ça à prendre quand même pas mal de points contre les gros.
Est-ce que le fait d'avoir fait 2 saisons comme ça, à accrocher l'Europe de pas loin, ça permet au groupe d'engranger de l'expérience et d'être plus serein sur cette fin d'année ?
Je pense que oui, de toute façon, on voit que c'est très cohérent. Les prolongations, tout ce qu'il y a derrière, ça quand même génère, je pense, cet appétit pour l'Europe. Et puis effectivement, je pense que les 2 dernières années, surtout les dernières, c'était un peu frustrant parce qu'on y a cru quand même un peu jusqu'au bout, même si on a mis un petit ralentissement. Ça peut quand même laisser présager d'une belle fin de saison. Quoi. Viser la 3e place, ça serait bien. Après, on nous aurait dit en début de saison qu'on terminerait 4e, par exemple, on n'y aurait pas cru. Donc, quelque part, toute position est bonne à prendre.
Quentin, combien de points objectif Lens, à ton avis, sur ces 10 derniers matchs ?
18.
18. En dessous, pour toi, c'est pas forcément une bonne opération, mais donc ça demande un gros rythme, ouais. Mine de rien, 18 points, c'est plus de la moitié.
C'est pas mal. Et puis après, bon, bien évidemment, ce sont tributaires des matchs des autres équipes. Donc 18 sur 30, ça me paraît être un bon.
Ça veut dire que tu prends des points aussi sur des concurrents directs.
Exactement.
Donc effectivement, c'est des matchs à 6 points, comme on appelle ça sur la fin de saison. On va y en avoir de plus en plus. Si on regarde maintenant le programme de Lille, la réception donc de Lorient dimanche, puis Angers, Montpellier, Auxerre, Ajaccio, mois d'avril. Plutôt abordable, contrairement au mois de mai où les Dogs vont devoir affronter Reims, Monaco, Marseille et Nantes avant de terminer à 3 à l'extérieur. On est donc là sur 4 équipes du top 10 actuel. Patrice, cette fois, est-ce que c'est le mois d'avril qui va définir si Lille peut être européen ?
Quand on regarde le mois d'avril, il y a 4 matchs.
Il devrait y avoir 12 points, pour moi. Il faut les prendre de toute façon. La seule chose où... Nous, on vise la 5e aujourd'hui, c'est entre 5e et 4e. Je pense que la 3e, elle sera trop loin pour y arriver parce qu'il y a quand même Marseille, il y a Lens, il y a aussi Monaco. Donc il y a 3 équipes qu'il faudrait courir. Et Rennes en plus qui est derrière. Il faut courir quand même quasiment derrière 4 équipes, c'est un peu compliqué. Mais il nous faut l'Europe pour continuer le projet Fonseca, même si c'est de la Conference League. Mais ce n'est pas des matchs qui vont être obligatoirement simples. Ouais, à part Angers qui joue plus rien.
C'est plus abordable la fin de saison de Lille ou la fin de saison de Lens pour toi ?
Alors Lens, il faut prendre une chose en compte, c'est que sur la phase aller, ils ont battu Paris, ils ont battu Marseille, ils ont battu Monaco et ils ont battu Rennes. Donc on dit qu'ils jouent les 4. Ces 4 matchs-là, même à l'extérieur, ils les ont à l'extérieur et à domicile, ils les ont gagnés. Donc ils ont une fin de saison des adversaires, c'est compliqué. Mais où je le rejoins, effectivement, c'est de se dire ça va se croiser. C'est-à-dire que nous, on va jouer Monaco, Marseille, juste sur la fin. Qu'est-ce qu'on va jouer à ce moment-là ? C'est, voilà. Le mois d'avril, pour nous, si on a les 12 points, parce qu'il nous faut les 12, on pourra commencer à accrocher et voir comment on va jouer derrière.
Et en tout, sur les 10, sur les 10 matchs, tu vois combien de points ?
20.
20 ?
Entre 20 et 22, ce serait l'idéal.
Eh ben, j'espère que Théodore Anjon a donc noté les 18 points demandés pour Lens.
Donc derrière Lens.
Donc,
nous, le seul, juste pour finir, pour Patrice, le seul problème, c'est quand on gagne, On a les autres qui gagnent devant. Quand on se disait qu'on avait passé Rennes, on avait gagné le match le vendredi. Rennes va gagner à Paris, par exemple. Donc c'est un peu, ça commence à être un peu aléatoire tout ça.
Mais le pool, la poule se restreint. Il y a plus 6 équipes qui sont en gros pour 6 à 7
équipes parce que Nice peut encore recoller aussi.
Allez, je suis désolé, Patrice, il faut qu'on avance. Désolé, Quentin. Lens, ça sera à Rennes samedi à 21h. Ça, c'est le calendrier de ce week-end. Autre match du haut de tableau, toujours à l'accent breton. Dimanche à 13h, le LOSC qui accueillera Lorient. Et le résumé du week-end du sport dans la région avec Arthur Jean.
Au terme d'un match serré, le BCM a fini par vaincre Strasbourg d'un petit point, 91 à 90. Ce n'est que la deuxième fois cette saison que Gravelines s'impose à l'extérieur. Un match tendu, symbolisé par ce score à la mi-temps 46 à 46. Mais c'est dans les tout derniers instants, à 3 secondes du terme, que Kenny Boyton a offert la victoire aux Maritimes. L'Américain termine meilleur marqueur côté BCM avec 22 points. Les Gravelinois ne sont plus qu'à une victoire du top 8 derrière Roanne. Roanne que les hommes de Laurent Le Niam affronteront mardi prochain. C'est une victoire qui comptera en fin de saison. Au Chaudron, le Portel a dominé les Metropolitans, pourtant deuxième de Betclic Elite. Une rencontre âpre, marquée par la très belle performance de Benoît Mangin, auteur de 21 points. Score final 78 à 77. Dixième victoire de la saison pour le Portel, qui reste à la 13e place au classement. Chez les filles, le SBVA est allé s'imposer sur le parquet des Flammes Carolo, les 6e du championnat. Avec une journée d'avance sur leur poursuivante Bourges, Villeneuve-d'Ascq grimpe à la 4e place de Ligue féminine. En handball, lourde défaite 37 à 28 pour l'USDK à domicile. Les Dunkerquois ont longtemps tenu la dragée haute au leader montpelliérain, revenant au vestiaire avec un petit but de retard. Mais en deuxième période, 5 réalisations successives de Montpellier creuseront l'écart. Les hommes de Franck Maurice restent 8e du championnat. Pour finir, un mot de volley, fin de saison régulière pour Tourcoing et pas la meilleure possible, puisque les Tourquennois sortent du top 4 après une ultime défaite face à Nantes. Ils rencontreront Narbonne en match aller des quarts de finale de Liga.
Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci Patrice.
Merci
Quentin.
Merci.
J'ai oublié ton prénom.
Merci,
Denis. Je t'ai oublié. Je suis vraiment désolé. Merci à Théodore Anjon à la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction des RMC Sports. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, le replay à retrouver sur le site BFM Grand Lille et sur Spotify. Bonne semaine à tous. À lundi. Salut.